c'est un sujet délicat que nous abordons aujourd'hui, un sujet encore largement occulté ou rarement traité, le harcèlement sexuel sur les campus outre-Atlantique, la Californie et l'État de New York, dépassé parce que les médias toujours américains, appellent une épidémie de viol, ont pris le problème à bras-le-corps en adoptant une loi, Yes Means Yes, qui stipule que tout acte sexuel doit être précédé par un consentement explicite des deux partenaires. Qu'en est-il en France, Marie-Caroline Missire ?
Eh bien, en France, on est encore loin d'une prise de conscience des institutions. En 2013, pourtant, la sénatrice Françoise Laborde soulignait dans un rapport que les études doctorales, donc la période des thèses, étaient particulièrement propices au harcèlement et aux violences sexuelles. Ce rapport préconisait même quelques pistes de travail, notamment la réforme des procédures disciplinaires qui pénalisent aujourd'hui, et c'est étonnant, les victimes. Alors, je la cite parce que ça va nous permettre d'introduire le débat. Françoise Laborde nous dit dans son rapport « Le caractère asymétrique et inégal de la procédure disciplinaire doit être réformé car l'impunité dont jouissent le plus souvent les auteurs de ces agissements tient largement au prestige dont ils jouissent dans leur discipline et, dans la mesure où ils sont jugés par leurs pairs, à l'embarras qu'éprouvent leurs collègues à sanctionner un confrère qu'ils connaissent et qu'ils estiment. » Alors, depuis ce rapport, malheureusement, la législation n'a guère évolué. Et c'est précisément le combat de CLASH, collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur. Depuis plus de 10 ans, cette association milite pour que l'État soit contraint, comme tout employeur privé d'ailleurs, de prévenir le harcèlement sexuel. Nous recevons aujourd'hui Alban et Marion, qui sont doctorants tous les deux et militants de CLASH. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, combien de plaintes, pour qu'on ait une idée de l'état des lieux et de la situation en France, combien de plaintes ou de victimes de harcèlement vous arrivent par an, Alban ?
Alors, en matière de plaintes, pour ce qui est de CLASH, on reçoit à peu près une quinzaine de témoignages de victimes par an. Alors, il faut savoir qu'un des problèmes de la question du harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, c'est qu'on ne bénéficie pas de chiffres. Et donc, justement, cette absence de chiffres permet de renforcer l'invisibilisation de la question permet de ne pas traiter cette question. Alors, une quinzaine de cas pour une association comme CLASH, en réalité, on peut considérer que c'est plutôt beaucoup. D'une part, parce que ce sont seulement les cas où les victimes ont osé parler, ce qui déjà est très minoritaire, se sont adressés à nous, ce qui n'est pas la totalité des victimes qui ont parlé. Et puis, un deuxième élément de chiffre important, c'est que dans tous les cas quasiment qui remontent à l'association, on constate que les agresseurs sont des multi-agresseurs. Et en fait, quand une victime ose parler, bien souvent, dans la très grande majorité des cas, d'autres victimes se déclarent. Et puis parfois, on a des étudiantes, par exemple, qui nous disent « je me suis plainte de harcèlement sexuel de la part d'un directeur de master ». Et la réaction au sein du département a été de dire « ah oui, tout le monde sait ici qu'il est limite ». Et c'est vrai que généralement, on déconseille aux filles de continuer en master 2 dans ce département. Donc en fait, il y a des choses qui se savent, il y a des victimes qui s'accumulent, mais on ne produit pas de chiffres, donc on n'a pas d'éléments chiffrés.
Et pourquoi
on ne
produit pas de chiffres ? C'est une réalité qui est difficile à mesurer,
c'est une réalité qui n'est pas facile à mesurer. C'est une question plus largement sur les violences sexistes et sexuelles en général, en dehors même de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a des chiffres peu précis et peu fiables. Je citerai la dernière grande enquête nationale, c'est l'ENVEF, l'enquête nationale contre les violences faites aux femmes en France, qui date de 2000. Et là, son renouvellement est en cours.
C'est ancien.
Son renouvellement est en cours, il y a des difficultés de financement. Il est possible qu'il y ait un volet consacré à l'enseignement supérieur, mais on voit la difficulté à produire des chiffres. Alors, et un dernier élément peut-être sur la quantité du phénomène, on voit sur les blogs internationaux d'échange, notamment Erasmus, mais aussi pour les étudiantes américaines, la France a une réputation de ne pas protéger les étudiantes contre le harcèlement sexuel. Et ça, c'est un vrai problème aussi.
On parle de quoi là ? De harcèlement sexuel, c'est-à-dire de pression, qui serait de la pression à la promotion, à la bonne note. Mais est-ce que ça peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut être précis sur les faits, hein? Est-ce qu'ils sont bien caractérisés, Marion?
Alors, le harcèlement sexuel, en fait, ça a été mieux défini en 2012, avec justement la loi qui a été réécrite suite à l'abrogation de la précédente loi. Et en fait, si je devais résumer ce qu'est le harcèlement sexuel, je dirais que c'est tout comportement. Donc par comportement, on entend à la fois des propos, mais aussi des gestes ou aussi des écrits. Donc tout comportement à connotation sexuelle qui serait imposé à une personne et qui non seulement porterait atteinte à sa dignité et qui rendrait insupportables les conditions de vie, de travail ou d'hébergement de cette personne. Donc, c'est, voilà, je pense qu'il y a deux dimensions qui sont importantes. C'est bon, la connotation sexuelle et ensuite l'atteinte à la dignité et la création d'un environnement insupportable pour la victime.
Et comment vous expliquez que ça se cristallise sur le moment des doctorats, sur les études doctorales justement ?
Alors, je pense que la relation en fait entre la doctorante et son directeur est une relation qui est propice au harcèlement sexuel parce qu'il y a un rapport de pouvoir fort. On est fortement dépendant de son directeur ou de sa directrice de thèse. Et c'est une relation, disons, dans laquelle le directeur de thèse a un pouvoir très fort sur la carrière de la doctorante. De plus, il est très difficile de changer de directeur ou de directrice de thèse en cours de doctorat. Et donc, ça permet à ces situations de harcèlement sexuel de s'installer dans la durée et de perdurer malgré parfois une victime qui dit stop.
Puis il y a un autre élément qui est abordé dans le rapport, mais vous en parlez également, c'est que les directeurs de thèse rencontrent leurs étudiants dans des lieux qui peuvent être des cafés, chez eux, qui encouragent peut-être une forme de dérive, malheureusement.
Oui, effectivement, la relation doctorale, bon, déjà, il y a aussi une dimension parfois de fascination intellectuelle vis-à-vis de son directeur de thèse, que tout doctorant ou doctorante peut connaître, et qui aussi va favoriser ce dérapage vers le harcèlement sexuel. Et puis, il y a un problème aussi matériel qui renvoie à plein de problèmes que connaît par ailleurs l'université ou les établissements de recherche, qui sont que parfois, c'est pas facile de trouver un lieu pour rencontrer son directeur ou sa directrice de thèse. Et puis après, il y a un problème d'éthique professionnelle, peut-être aussi, qui serait à questionner. Est-ce que c'est normal qu'un directeur ou une directrice de thèse, même sans harcèlement sexuel, reçoive à son domicile, en début en tout cas de relation doctorale, son doctorant ou sa doctorante? Ça peut être une question à poser.
Et alors, sur le point juridique que j'abordais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour une victime? Quel est le process juridique qui suit et comment on peut mieux les protéger?
Alors, à l'intérieur des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, il y a un problème qui est que les procédures disciplinaires, pour tout un tas de raisons pour lesquelles je ne vais pas avoir le temps d'expliciter, mais n'intègrent pas les victimes. C'est vraiment l'administration qui juge ces personnels ou les étudiants, quand ce sont des étudiants qui sont concernés. Et donc, les victimes n'existent pas, si ce n'est parfois comme témoins dans la procédure. Et donc, elles ne peuvent pas peser sur cette procédure en dehors de leur simple témoignage. Et donc, elles ne sont pas reconnues comme victime, et éventuellement, mais dans de manière très rare, pour des logiques notamment corporatistes, il n'y a pas de sanction, et donc les agresseurs ne sont pas non plus reconnus comme agresseurs.
Donc il faut aller vers un changement de la législation, et c'est ce que vous portez comme revendication. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Alban et Marion. On rappelle le nom de votre collectif Clash, et on mettra le lien vers le site sur la page de Rue des Écoles sur franceculture.fr. À la semaine prochaine, Marie-Caroline Missire.